tout le monde. Merci d'être là ce matin. Dans le cadre des séminaires du Griffith, dédiés à la réflexion finalement collective sur la pensée critique en communication. Alors aujourd'hui, nous allons avoir, c'est l'avant-dernière séance de l'année. En octobre, nous devrions en avoir une autre avec deux présentateurs. Aujourd'hui, nous avons au programme Michel Martin, professeur à la School of Journalism and Communication de l'Université Carleton, si je ne m'abuse, qui va nous entretenir des liens entre l'économie politique de la communication et les approches féministes, si j'ai bien compris le titre. Là, je pense que je ne m'avance pas trop en disant ça.
Non, pas trop.
Ok, parfait. Ce sera suivi...
Juste un
petit peu. Ok, vous allez me préciser ça. Et ce sera suivi d'une présentation d'Éric Georges qui va interroger un petit peu plus tard les prétentions critiques de certaines recherches qui s'inscrivent dans la lignée critique en communication. Là encore, je pense peut-être m'aventurer un petit peu trop loin, mais ce sera l'objet des échanges que nous aurons par la suite. À vous, Michel.
Merci. D'accord, merci de m'avoir invité. Je suis très honorée de venir parler à un groupe de l'UQAM, un retour au Québec après plusieurs années. J'étais un peu surpris de voir qu'on était à la fin des... Je pensais qu'on était au début.
Ah.
Pour nous, septembre, c'est le début. Ouais. Mais bon, peut-être aussi pour... C'est la fin. On ne sait jamais avec les Anglais.
Exact. En fait, OK, juste pour préciser, c'est la fin du cycle qui a commencé l'année dernière.
Je pense que j'ai un peu compris.
Exactement. Un autre point, juste pour préciser le format, la présentation va prendre à peu près, idéalement, 3 quarts d'heure, 45 minutes, suivi d'une période égale de questions.
Je ne prendrai peut-être pas 3 quarts d'heure, mais en tout cas, je vais m'arrêter okay. 3 quarts d'heure
Parfait.
Si ça va plus. Donc, quand c'est Eric qui a communiqué avec moi en premier l'année dernière, puis finalement, j'ai été honteusement obligée d'annuler à cause de devoirs administratifs, que j'aurais préféré venir ici, évidemment. Et puis, quand Eric m'a recommuniqué septembre, il m'a donné 15 jours pour préparer la communication. Alors, j'ai dit oui à la condition que ça soit informel. Donc, je vous avertis, ça va être informel. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Ce que je veux faire, c'est un peu faire le cheminement de tout mon développement théorique depuis presque tout le début. Et c'est pour ça que je commence avec l'économie politique et je finis avec le féminisme, parce que c'est un peu ce qui s'est passé finalement quand j'ai développé mes approches conceptuelles. Je dis mes approches parce que moi, en tout cas, personnellement, je ne pense pas qu'il y a des grandes théories qui s'appliquent à tout. Alors, j'ai développé des approches assez différentes selon les objets d'analyse que j'investigue. Mais c'est toujours fondé sur l'économie politique. Ça, c'est la ligne de direction de mon approche, l'économie politique. Donc, au tout début, j'ai déjà commencé avec ça. Finalement, quand je suis au tout début, comme vous, j'ai commencé avec ma thèse de doctorat. Et j'ai fait en sociologie. Donc, mon approche est une approche, ça encore, ça va peut-être vous décevoir, mais c'est une approche dans ce qu'on appelle la sociologie historique, critique, parce que la sociologie historique est critique. C'est un peu fondé sur, évidemment, l'approche marxiste en matérialisme historique, pas juste un peu, beaucoup. Donc, la première chose que j'ai découvert de façon systématique, c'est Marx. Alors là, j'ai tout lu du début à la fin, même les volumes les plus ennuyeux du Capital, les derniers, et c'est devenu une religion. Donc, j'ai commencé à développer mon approche vraiment à partir de Marx. Et je ne l'ai jamais vraiment laissé. Comme je vous dis, je suis toujours, mais mon approche est toujours invariablement fondée sur l'économie politique du développement technologique, quel que soit le développement technologique que j'analyse. Si c'est les télécommunications, par exemple, donc je regarde l'état de l'industrie ou des institutions, et ainsi de suite. Si c'est les mass médias, c'est la même chose, je regarde l'état de l'industrie, et ainsi de suite. Donc, ça commence toujours par ça. Et quand j'ai commencé, c'était surtout, ça ne me rajeunit pas, évidemment, mais c'était Schiller qui était... tu sais, Schiller, Gaétan, comment c'était vraiment le pape des approches critiques en communication avec Smythe, qui était un Canadien, et puis plus tard, c'est venu, bon, Moscou et bien d'autres, mais c'était vraiment la personne de référence en analyse critique des communications. Mais c'était, comme vous savez très bien, je crois, vous devez connaître un peu Schiller, j'imagine, parce qu'il est devenu un classique, même si on n'est plus d'accord avec son approche, mais je crois que même si c'était juste pour le critiquer, c'est important d'en savoir quelque chose. Il avait une approche très, très, très économiquement déterministe. Donc, pour lui, tout était déterminé par le capitalisme, et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Après, ça s'est modifié quelque peu. Je vais y arriver un peu plus tard, mais je veux, avant d'arriver là, vous parler un tout petit peu du féminisme. Et ça aussi, j'y reviendrai plus tard. Mais je me suis vite rendu compte, à cause de mon objet d'analyse, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on parle de nos objets d'analyse, mais je vais être obligée d'en parler parce que pour moi, et c'est une chose qui peut peut-être nous différencier, me différencier de ce groupe, pour moi, la théorie ne peut pas exister sans les objets d'analyse. Parce que les objets d'analyse empirique nous aident à modifier la théorie, à la faire avancer. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de toujours lier la théorie. Je ne vous dis pas que je n'ai jamais écrit d'article uniquement théorique, bien sûr que j'en ai écrit, mais pour faire avancer la théorie, moi, je trouve qu'il faut absolument la lier à un objet théorique et à voir qu'est-ce qui se vérifie, qu'est-ce qui ne se vérifie pas, et justement ajuster l'approche selon ça. Donc, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de choses non plus en analyse critique féministe en communication. Je me suis inspirée d'approche historique, ben, un peu bizarre, mais aussi sociologique, comme par exemple des femmes comme, je ne sais pas si vous les connaissez, mais Denise Riley et Joan Scott, qui étaient vraiment, ils ont vraiment commencé à développer une approche qui n'était pas, elle non plus, déterminante. Elle était déterminante, mais pas déterministe. Dans le sens que, par exemple, il y avait des auteurs comme Cynthia Goulburn, qui, elle, était vraiment une féministe qui analysait le développement des technologies, surtout des technologies de communication. Elle ne s'intéressait pas aux mass médias et qui avait une approche extrêmement déterministe dans ce sens que, pour elle, c'était l'homme qui déterminait le développement des technologies et la femme n'avait rien à voir, et ainsi de suite. Donc, c'était un peu comme Schiller avec l'économie politique. Pour elle, c'était le gender. Et même pas le gender, c'était women. Alors, je suis allée voir ailleurs, comme je vous ai dit, avec Denise Riley. Et ces deux-là sont intéressantes parce qu'ils sont encore intéressantes, ils écrivent encore, parce qu'ils ont développé une approche qu'on appelle en sociologie le post-structuralisme. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, en tout cas, parce que le post-structuralisme ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, pour elle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la femme n'est pas juste un objet de son sexe, mais elle est aussi influencée par ses pratiques. Donc, elles ont intégré la femme dans les pratiques, dans les activités qu'elle faisait. Et ça changeait tout, évidemment. Parce qu'en intégrant la femme dans les pratiques, dans leurs pratiques, les femmes, disons, parce que c'était plus la femme, justement, c'était pas une approche essentialiste. C'était pas la femme parce que la femme, elle avait tourné ça entre les femmes avec leurs pratiques, avec leurs expériences, et ainsi de suite. Moi, ça faisait mon affaire. Parce que, comme vous savez peut-être, j'étais dans le temps, encore là, je suis obligée de faire un lien avec mon objet d'analyse, j'étais en train d'étudier le téléphone avec les opératrices et les utilisatrices, et ça ne marchait pas du tout de regarder la femme comme un objet essentialiste dans mon analyse, parce que j'avais bien constaté, en regardant mes données, que et les opératrices et les utilisatrices avaient un petit, j'appelle même pas ça un pouvoir, mais quand même une influence. Il y avait des petits pouvoirs pour l'opératrice et il y avait des influences pour les utilisatrices. Donc c'était important à cause de leur pratique justement, à cause de leur expérience, à cause de leur pratique. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai ajusté mon approche théorique pour pouvoir justement intégrer ce post-structuralisme qui venait d'être développé parce que c'était vraiment, ça se développait vraiment en même temps que moi, je développais ma thèse. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le féminisme et ce genre de féminisme-là dans mon approche. Et c'est toujours ce genre de féminisme-là, mais ajusté justement, que j'utilise. Il y avait aussi, dans le temps, Michèle Matelard, mais elle, c'était avec les médias de masse. Donc, ce n'était pas avec le développement des communications, télécommunications. Alors, Michèle Matelard écrivait pas beaucoup de choses dans le temps, en tout cas. Et ce qu'elle écrivait seule, c'était le rôle et la représentation des femmes dans les masses médias, particulièrement dans les telenovelas au Chili et en Amérique latine. Mais elle faisait des choses intéressantes. Elle faisait des choses très intéressantes. Donc, quand on voulait regarder les contenus des médias, c'était à elle que... C'était une référence, disons. C'était pas la seule référence, mais quasiment la seule référence en médias de masse, mais c'était pas la seule référence en général. Donc, voilà comment j'en suis venue à articuler économie politique et féministe. Mais la grande découverte que j'ai eue et qui a influencé vraiment mon approche, c'est quand j'ai découvert les deux volumes de Matelard et Seyglaube, Communication and Class Struggle. Je pense que ça n'a jamais été traduit. Je ne crois pas que ça n'a jamais été traduit. Mais ça, c'était vraiment intéressant parce que, dans le premier volume, il ne parlait qu'économie politique, et dans le deuxième, il parlait du social et du culturel. Donc, si on prenait les deux volumes ensemble, ça nous donnait une approche que mes étudiants au doctorat ont nommée intégrative. C'est-à-dire que c'est une approche qui intègre l'économie, le politique, l'idéologie, évidemment, mais aussi le culturel et le social. Alors ça devenait quelque chose d'intéressant pour ce que je faisais et ça m'a influencé énormément dans tout le reste. Je ne l'utilise plus comme tel. Je le donne à mes étudiants de temps en temps, mes étudiants de premier cycle, mais je ne l'utilise plus comme tel, mais je peux dire que Matelard m'a vraiment, et Seyglaube, m'ont vraiment influencé. C'est vraiment le livre qui m'a le plus influencé. Mais encore là, ça m'a donné l'idée d'aller voir ailleurs. Alors, c'est là que, en regardant encore là mon objet d'analyse et en voyant que, bien sûr, il y avait une domination du capital, c'est-à-dire il y avait une domination des développeurs, hein, on parle des télécommunications, mais il y avait aussi, comme je disais tout à l'heure, une influence au moins et même quelques petits pouvoirs du côté soit des producteurs dans le sens marxiste du terme ou encore des productrices, je devrais dire, ou encore des utilisatrices. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, ce n'est pas que de la domination, donc il faut que j'aille voir ailleurs. Et je suis allée voir Gramsci, donc avec son approche sur le concept d'hégémonie. Et ce concept-là, c'est un concept extrêmement utile parce que c'est un concept dynamique. C'est un concept où ça bouge dans le sens que des fois la domination est plus forte que la résistance ou l'opposition, et d'autres fois, bon, mais la résistance et l'opposition est un peu plus forte. Mais il y a toujours, comme vous savez, du consentement, pas du consensus, mais du consentement, qui est extrêmement important, et du leadership. Donc, le concept d'hégémonie, je crois même en général dans les études en télécommunication et même en mass media, c'est un concept qui n'est pas à rejeter de premier abord et qui devient, je crois, plus, mais on pourra en discuter plus tard, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi je pense qu'il est plus utile que le concept de lutte de classe, par exemple, dans ce qu'on fait. Pour plusieurs raisons, on pourra en discuter. Là, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais c'est sûr qu'il faut regarder les luttes de classe jusqu'à un certain point. Par exemple, entre les producteurs, les managers ou encore ceux qui sont les capitalistes, disons, pour employer le mot, et les producteurs, toujours dans le sens marxiste du terme. Et à quel point, quel est le niveau de domination, mais aussi, si on veut être honnête, je crois, intellectuellement, il faut aussi regarder dans l'autre sens et voir jusqu'à quel point on peut utiliser justement ce concept d'hégémonie dans le but de trouver quelles sont les pratiques des producteurs et des utilisateurs quand c'est les télécommunications. Quand j'ai commencé à regarder Gramsci au niveau d'études en télécommunication, il n'y avait pas beaucoup non plus d'études qui se faisaient. Il y en avait peut-être. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs études qui sont sorties après, presque en même temps que la mienne. Et c'est un peu toujours comme ça que ça marche. On trouve rien. On fait nos études. Et finalement, quand on sort nos études, on s'aperçoit qu'il y en a plusieurs qui sortent en même temps. On travaillait tous un peu sur le même sujet. Et puis, on ne savait pas. Peut-être même temps, avec e-mail puis Internet, on s'en rend compte plus. Mais dans le temps, on travaillait un peu isolé. Donc, il y a plusieurs études qui sont sorties après qui me montraient que j'étais pas la seule à utiliser ce genre d'approche-là. Mais quand je le faisais, je trouvais pas, je trouvais rien. Donc, pour moi, c'était nouveau. Et puis, quand ça a commencé à sortir, bon, je me suis rendu compte avec grand plaisir, en fait. C'est pas du tout détestable de voir qu'on n'est pas les seuls à travailler dans un sens. Puis, je crois que maintenant, justement, avoir l'opportunité d'échanger comme ça des idées, c'est super. C'est vraiment fantastique. Félicitations pour votre groupe de recherche parce que vraiment, c'est nous, j'ai essayé, moi, d'en fonder un à Carleton, ça n'a jamais marché. C'est pas très anglais, cette affaire-là. Je pense que c'est plutôt, une tradition française et québécoise. Donc, voilà. Donc, pour tout ça, pour dire qu'à l'époque, ça m'apparaissait comme quelque chose de nouveau. Alors, je vous disais que le concept de lutte de classe c'est pas si utile que ça, bien que ça soit utile à un certain niveau. Et puis, pour encore en télécommunication, le concept de plus-value n'est pas non plus particulièrement utile. Et ça aussi, on pourrait peut-être en discuter plus tard. Quand j'ai fait mon analyse, et je ne suis pas sûre si je suis encore d'accord, parce que vous savez, quand on sort des livres, 10 ans après, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on a dit avant. Mais dans le temps, j'avais considéré le concept comme plus-value. Je l'avais utilisé, je l'avais considéré comme s'appliquant aux connexions que les opératrices faisaient dans le temps, par minute, disons, parce qu'ils en faisaient, je pense, ils ont commencé par en faire 4 ou 5 ou 6, et puis c'est incroyable, ils en faisaient, je pense, une vingtaine par minute, juste comme ça. Et puis, pourquoi je le considérais comme ça? Je considérais que ces connexions-là, ces appels avec les connexions, c'était une marchandise de Bell, quoi. Il n'y avait pas d'autre chose que cette marche. Ben, il y avait le téléphone, mais qui était loué, évidemment. Mais là, je regardais, évidemment, le processus de production. Alors, je considérais chacune de ces connexions-là comme une marchandise. Et comme les opératrices étaient très peu payées, je considérais ça comme... je considérais qu'il y avait une plus-value parce que l'abonnement au téléphone était quand même excessivement cher à l'époque. Donc, la plus-value, j'ai essayé de l'appliquer dans ce sens-là. Encore une fois, je suis plus certaine d'être d'accord. J'aimerais bien avoir votre opinion pour voir si on peut... Parce que finalement, si on l'applique aux opératrices, on pourrait peut-être l'appliquer aussi à Internet ou à différentes situations maintenant dans les analyses modernes. Bon. Donc, dans ce sens-là, la plus-value m'avait été plus ou moins utile. Mais... je ne l'utilise plus dans ce sens-là, je peux vous le dire. Mais je continue autant que possible à utiliser l'approche féministe, parce que je suis sûre que vous le savez, les femmes dans l'industrie de la communication, et je pense que c'est aussi la même chose dans l'industrie des mass-médias, sont toujours dans une position subordonnée. Il y a très, très peu de femmes qui sont dans les plus hauts échelons de l'industrie, par exemple. Il y en a quelques-unes, évidemment. Ils les mettent d'avant et nous font croire que, ils ont du pouvoir. Ils ont un petit pouvoir. Hein? Donc, les femmes sont toujours dans cette position-là. Et je crois que c'est toujours important de regarder leur pratique dans le but de savoir justement jusqu'à quel point ils ont de l'influence, jusqu'à quel point ils ont du pouvoir. Là, ça fait une demi-heure?
Non.
Non?
Pas,
d'accord.
Ça fait 20 minutes.
D'accord. Continue. Je voudrais juste vous parler un tout petit peu aussi des utilisateurs, parce que ça aussi, ça peut s'appliquer à Internet, les utilisatrices du téléphone dans le temps. Pourquoi je dis qu'ils avaient un petit pouvoir? C'est que, justement, au début, je suis sûre que vous savez tout, mais je veux juste vous le rappeler très rapidement. C'est qu'au début, évidemment, les développeurs, ils avaient développé le téléphone uniquement pour la business, pour les affaires, et les femmes étaient interdites d'usage, sauf pour les affaires. Et elles ont tellement utilisé le téléphone que finalement, les développeurs se sont rendus compte que ils devaient absolument faire le développement résidentiel, même s'ils n'étaient pas encore prêts à le faire. Et quand je dis qu'ils n'étaient pas encore prêts, c'est que la technologie ne se développait pas aussi rapidement que maintenant. Hein. Ce n'était pas évident de faire plusieurs développements dans les zones résidentielles parce que la technologie coûtait très très cher. Les matériaux pour la technologie coûtaient très très, très cher. Donc ce développement rapide-là, vous allez me dire, ça leur apportait du profit. Pas nécessairement la première ou la deuxième année parce que justement la technologie, les matériaux pour la technologie coûtant tellement cher que ils faisaient pas de profit, ils perdaient même de l'argent au début. Et c'est après, évidemment, qu'ils sont mis à faire énormément de profits. Mais au début, c'était pas l'objet principal. Et c'est intéressant parce que maintenant, j'ai vu ça aussi avec le développement de la revue Life, sur laquelle je travaille présentement. Justement, je ne sais pas si vous savez, mais ça s'est développé de façon fulgurante. Je veux dire, ils s'attendaient à vendre à peu près 200 000 exemplaires pendant la première année. Ils en ont vendu plus à peu près 1 500 000. Donc, ils ne savaient pas quoi faire avec ça parce qu'ils avaient choisi, ça c'est une parenthèse, mais pour vous montrer que il ne faut pas arriver à des conclusions rapides puis dire « Ah oui, c'est parce qu'ils ont du profit », parce que ce n'est pas toujours ça. Ça ne veut pas dire que je les excuse, mais je pense qu'il faut être encore là, honnête, et se rendre compte que ce n'est pas toujours ça. Ils avaient pris du papier très, très cher, hein, du très bon papier pour le faire, contrairement aux timbres qui étaient les mêmes propriétaires. Parce qu'ils pensaient ça n'allait pas prendre tant que ça. Alors, quand ça a pris, il a fallu qu'ils achètent le papier pour rencontrer les demandes. Et ça leur coûtait très cher. Donc, Pendant un certain temps, ils ont perdu de l'argent. Après, évidemment, ils sont mis en enfer, comme vous savez, comme de l'eau. Donc, ça, c'est des situations dans le développement capitaliste qui sont très ponctuelles, parce que, évidemment, comme je disais, ils reviennent à faire énormément de profits. Mais quand même, je pense que quand on analyse le développement de près, il faut s'en rendre compte et il faut vraiment le noter. Donc, c'est ce qui est arrivé avec les consommatrices du téléphone. Ils ont obligé la compagnie à développer plus vite qu'ils l'avaient prévu. Donc, il y a été une petite période là où ils étaient loin de faire autant de profit qu'ils le voulaient. Quant au, pour en revenir aux producteurs, comme je vous ai dit, j'ai regardé, comme je vous ai dit, la lutte de classe, ça, c'est utile jusqu'à un certain point. La plus-value, j'ai essayé de la rendre utile, mais comme je vous dis, je ne suis pas certaine d'avoir réussi. Mais ce n'est pas suffisant. Même en essayant, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce que, en regardant les opératrices et en les regardant sur à long terme, hein, pas juste en les regardant pendant, disons, de 1876, l'année de fondation, jusqu'à 1920, donc à long terme, on se rendait compte qu'ils prenaient la cause de Bell à cœur. Certaines, pas toutes, parce qu'il y en avait qui continuaient à faire de la résistance, mais... Alors là, je me suis dit, j'ai besoin d'autre chose pour aller chercher ça, parce que même le concept d'hégémonie n'expliquait pas tout. Donc, c'est là que j'ai décidé d'aller voir Foucault. Oh, quel sacrilège! Une marxiste qui va voir Foucault. Mais voilà, mais ça a été utile, parce que je trouve que, contrairement à plusieurs personnes, ou à plusieurs de mes collègues, au moins à Carleton, je ne trouve pas que Foucault soit incompatible avec Marx. Je crois qu'ils sont au contraire complémentaires. Donc, il y a des moments inexplicables avec une approche marxiste qu'il faut quand même examiner et expliquer, et qu'il faut, et alors il faut aller voir ailleurs pour essayer de débroussailler, si vous voulez, qu'est-ce qui arrive. Donc, je suis allée voir Foucault avec son concept de subjectification. Ça, c'est un concept assez utile aussi. Son concept de subjectification, il comprend trois éléments. Hein? Les deux premiers, c'est des éléments qu'on appelle extérieurs, c'est-à-dire des éléments qui ne font pas partie de la personne des travailleurs. Le premier, c'est la formation, ce qu'on appelle en anglais du « training ». Donc, ça, c'était le premier élément qui, justement, est relié directement à la subjectification des employés. Le deuxième, c'est la catégorisation, c'est-à-dire, ça le dit, la catégorisation. Qui crée cette catégorisation-là? Évidemment, la hiérarchie. Donc, c'est important. Donc, on voit tout de suite que c'est lié, finalement, à Marx. Foucault peut-être se retourne dans sa tombe, mais en tout cas, moi, je le vois comme tel. Donc, la catégorisation, c'est le troisième élément qui est intéressant. Les deux premiers, bon, sont essentiels, mais ce n'est pas les plus intéressants. Le troisième est intéressant, comme je suis sûr plusieurs d'entre vous le savent, sinon tous, c'est l'autodiscipline. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un élément intérieur. C'est-à-dire, ça expliquait très bien ce que l'événement que dont je vais vous parler maintenant. Et je crois que ça explique aussi beaucoup de choses dans n'importe quelle industrie ou institution. L'autodiscipline, c'est que quand un employé a travaillé pendant un certain temps, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça peut être quelques mois, comme ça peut être quelques années ou plusieurs années. Quand un employé a travaillé pendant un certain temps pour une entreprise, hein, il prend les intérêts de cette entreprise-là comme les siens ou les siennes. Et à ce moment-là, ça change tout, parce qu'il s'autodiscipline à faire plus pour l'employé, plus même qu'on lui demande. Et ça, ça crée une dynamique absolument extraordinaire. Parce que si vous faites plus qu'on vous le demande, l'entreprise vient qu'à s'en apercevoir, ça prend pas tant de temps que ça. Alors, les exigences pour la job augmentent. Donc, c'est une dynamique entre employeur et employé qui fait que c'est l'employé lui-même qui suggère presque à l'entreprise d'augmenter ce qui est nécessaire pour l'emploi. Ça, c'est un aspect extrêmement intéressant que j'ai constaté, en fait, justement avec les opérateurs, les opératrices, je devrais dire, c'était toutes des femmes. Alors, quand je les ai vues, ils ont commencé quand même à aimer leur travail parce qu'ils disaient que c'était glamorous. Hein? Ils parlaient à des docteurs, c'était toutes des filles de la classe laborieuse. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que vous le savez déjà. Mais quand ils ont commencé à faire du travail à la chaîne, parce que c'était vraiment du travail à la chaîne, là, c'est là que la résistance a commencé, mais c'est là aussi que l'autodiscipline a commencé. C'est là aussi qu'il y a certaines opératrices qui, parce qu'ils s'autodisciplinaient, parce qu'ils prenaient l'intérêt de la compagnie à cœur, sont devenues des chief operators, opérateurs en chef, et puis, bon, qui surveillaient les autres, donc il y avait un aspect surveillance là-dedans. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces opératrices en chef-là, à un moment donné, et ça n'a pas pris tant de temps que ça, ils ont pensé à ouvrir une école. Ce n'est pas la compagnie Bell qui a ouvert l'école. Au début, elle l'a appropriée après, mais c'est les opératrices qui ont ouvert des écoles indépendantes dans le but de former des bonnes opératrices qui travailleraient mieux pour Bell. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et c'est là, je pense que, bon, vous ne serez peut-être pas d'accord, et je suis prête à en discuter parce que je voudrais bien savoir votre avis là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était absolument effarant de voir à quel point on peut prendre, et même s'ils sont mal payés, même s'ils n'ont pas des conditions de travail extraordinaires, même si après 2 ans, ils n'en peuvent plus parce que c'est terrible comme emploi, même ça, il y en a, je vous dis pas que tout le monde, mais il y en a qui s'autodisciplinent au point où ils trouvent des moyens d'améliorer le rendement des employés pour la compagnie, sans même que la compagnie leur demande. Il y a des exceptions, évidemment. Il y avait des rebelles, c'est sûr, mais c'est un aspect que j'ai trouvé, finalement, seulement en utilisant Foucault. Je ne serais pas arrivée à avoir une analyse aussi fine de ce qui se passait sans avoir ce concept de subjectification-là de Foucault. Voilà. Maintenant, ça, je viens de vous parler des télécommunications. Je vais un petit peu, parce que je pense que ce n'est pas vraiment vos intérêts, mais je vais quand même un petit peu vous parler de... Parce que dernièrement, dernièrement, dans les 10 dernières années, j'ai plutôt orienté ma recherche sur les masques, sur les communications de masques, sur les télécommunications. Donc, je voudrais quand même essayer de vous parler un tout petit peu rapidement, parce que là, je ne veux pas vous ennuyer avec quelque chose qui vous intéresse plus ou moins, mais deux aussi, parce qu'il me reste 10 minutes ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, comme je vous disais au tout début, je ne crois pas aux grandes théories. Donc, ce que j'avais développé pour les télécommunications, il y a des choses qui s'appliquent, évidemment, comme la base en économie politique, certainement le culturel et le social, et ainsi de suite. Mais ça n'explique pas tout dans les masses médias, en tout cas, pas dans ce que je regardais. Et particulièrement... parce que j'ai été intéressée depuis les 10 dernières années au moins à regarder l'image dans les télécommunications. Parce qu'encore là, quand j'avais commencé ça, il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'intéressait à l'image. Tout le monde avait l'air de penser qu'une image vaut 1000 mots. Et moi, je peux vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à l'image. Et ça a fait un peu comme avec le téléphone, finalement. Quand j'ai sorti quelque chose, il y avait d'autres mondes qui en sortaient. Donc, je me suis rendu compte que finalement, on était plusieurs à s'intéresser à l'image. Pourquoi l'image, justement? Parce que j'avais constaté qu'il n'y avait personne qui travaillait là-dessus. Et je me suis mise à m'intéresser à la relation image-texte. Parce que là, s'intéresser à l'image tout seul, justement, on risque de se dire une image vaut mille mots. Mais si on commence à s'intéresser à l'image par rapport au texte, alors là, on se rend compte qu'une image vaut peut-être pas mille mots. Et puis, j'ai constaté finalement que ça, quand on évidemment, l'image, c'est une chose qui, c'est l'objet qui, un des objets qui permet la circulation des savoirs. Hein, vous savez, avec le texte, dans les médias de masse, dans la presse en particulier, ce qui m'intéresse. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là, parce qu'on s'est dit, quel genre de savoir, comment est-ce que ça s'arrime, ces deux trucs-là, le texte et les images. Et puis, comment ça s'internationalise. Ça, c'est une chose qui est très importante dans ma recherche présentement aussi. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quand même trois, il y en a probablement plus, mais moi, je me suis arrêtée à trois relations entre image et texte. La première, c'est quand le livre que j'avais sorti, c'est un livre qui couvre la guerre franco-prussienne, 1870, dans les périodiques illustrés. Et à cette époque-là, c'était les gravures. C'est encore plus intéressant pour moi parce que des gravures, hein, ça passe par d'abord celui qui fait le sketch sur le terrain, au front, ensuite celui qui fait le dessin dans l'entreprise, et puis finalement le graveur. Donc il y a des étapes, il y a des médiations, il y a au moins deux médiations. Alors, ce qui m'intéressait de voir, c'était, comme je vous dis, d'image-texte. Donc, j'ai constaté dans cette étude-là qu'il y avait trois positions. La première, qui est tout à fait banale, pas si banale que ça, en fait, avec les gravures. L'image reflétait exactement ce que le texte disait. Et puis, en grattant un peu, j'ai constaté que c'était la plus grande partie du temps. Parce que le journal, le périodique, ne recevait pas l'image à temps, parce que, comme vous savez, le texte pouvait s'en aller par télégraphie, mais pas l'image. Donc, ne recevait pas l'image à temps. Donc, le dessinateur, il dessinait selon ce qui était dit dans l'article, et puis il produisait, le graveur produisait l'image. Donc, finalement, c'est pas si évident que ça. Le deuxième, évidemment, c'est quand l'image complémente le texte. C'est-à-dire que vous avez, là, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que ça a été fait sur le terrain. Alors, l'image ajoute quelque chose au texte. On a ça de moins en moins parce que, comme on sait, les images, souvent, ils sont mis en archive. Je ne sais pas si vous avez constaté, j'ai une étudiante qui a travaillé là-dessus. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est que les journaux, de plus en plus, et même la télévision, je crois, ils demandent des images qui n'ont pas trop de contexte derrière, de sorte qu'ils peuvent être utilisés plusieurs fois pour différentes occasions. Donc, des images comme si c'est des personnages, par exemple, c'est juste des personnages. Si c'est une guerre, c'est des batailles qui pourraient peut-être se reproduire dans d'autres batailles, et ainsi de suite. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, il y avait du contexte dans les gravures, et il y avait des trucs qui étaient un complément. Donc, le texte pouvait parler d'une bataille, telle et telle chose qui arrivait dans la bataille, et ne pas oser dire, par exemple, qu'il y avait eu des brutalités ou quelque chose comme ça. Et ils arrivaient avec, parce qu'il y avait des images qui étaient d'une brutalité absolument incroyable, ils arrivaient avec l'image, hop, là, on voyait que ça donnait un complément au texte. Et la troisième, c'est vraiment la situation la plus intéressante. C'est que l'image contredisait le texte. Et la meilleure situation que j'ai vue là-dedans, qui était assez ironique en fait, c'est que le texte nous expliquait comment tous les Parisiens, quelle que soit leur classe, participaient à la... à la défense de Paris en érigeant des murs et ainsi de suite. Et l'image qui accompagnait ce texte-là nous montrait des travailleurs qui travaillaient dur pour ériger ces murs-là et nous montrait un groupe de bourgeois avec leurs femmes qui pique-niquaient au bon qui regardaient les travailleurs. C'était superbe comme image. Donc là, je me suis dit, d'accord. À ce moment-là, on se dit, ben, peut-être que c'est vrai que l'image vaut mille mots, finalement. Donc, vous avez ces trois situations-là. Je suis sûre qu'il y en a d'autres entre les deux, mais c'est... ce qui était aussi intéressant, et là, j'en viens à l'internationalisation de l'image, qui est plus facile, je crois, que l'internationalisation du texte. C'est que ces images-là qui paraissaient j'ai regardé 14 périodiques et je regardais en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis et au Canada. Donc, c'était vraiment international. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ces images-là étaient souvent exportées. Évidemment, les graveurs et même les dessinateurs n'avaient absolument rien, n'avaient aucune redevance là-dessus. Je veux dire, c'était le propriétaire du journal qui les vendait, ces blocs de gravure à d'autres périodiques, ou quelquefois ils vendaient le dessin et c'était le journal qui l'achetait, qui faisait la gravure. Donc, j'ai trouvé souvent la même image dans plusieurs périodiques, sûrement en Angleterre et en France. En Allemagne, moins, parce que les Allemands, évidemment, ne pouvaient pas vraiment avoir les mêmes images que la France, par exemple. Mais beaucoup aux États-Unis et aussi même au Canada. Mais évidemment, avec trois à même 6 semaines de différence, parce qu'il fallait qu'ils traversent l'océan, évidemment. Donc, et souvent, c'était pas la même histoire qui accompagnait l'image. C'était une histoire complètement différente. C'est comme ça que j'avais trouvé une image, par exemple, au tout début de ma recherche, dans le graphic anglais, et qui n'était jamais vraiment expliquée. On ne savait pas qui était quoi. Et finalement, c'est quand je l'ai vu 6 semaines plus tard dans le Canadian Illustrated News que j'ai finalement appris qu'est-ce que c'était exactement, quels étaient les personnages identifiés et tout. Donc, des fois, l'internationalisation d'une image, remarquez que ça pouvait être faux, hein, ça pouvait être un texte que le Canadian Illustrated News avait inventé pour expliquer l'image. Ça, c'est absolument impossible à vérifier. Mais au moins, ils avaient quelque chose qui était complètement différent des autres. Donc, l'internationalisation avec l'image, ça se fait de façon beaucoup plus facilement qu'avec les textes. Et ça ne veut pas dire que cette image-là va être interprétée de la même façon partout. Maintenant, encore là, avec Internet, ça devient peut-être un peu plus difficile, mais on a ces images du Moyen-Orient où est-ce que les gens envoient par iPhone ou par téléphone intelligent, et qu'on nous montre ad vitam aux nouvelles le soir, qui sont évidemment internationalisés et qui sont probablement dans les mêmes circonstances que ça, avec vous devez faire la même chose aussi. Moi, je regarde les nouvelles en 3, 4, 5 postes différents, par exemple BBC, TV5, CBC et les États-Unis, CNN et même Al Jazeera, et les textes sont souvent diffèrent beaucoup. Il y a des fois qui sont les mêmes, mais souvent diffèrent beaucoup. Je pense que j'ai plus le temps de...
Vous avez 5 minutes encore.
5 minutes, je ne sais pas si je peux faire ça, parce que je voulais vous parler... je vous ai parlé des graveurs. Je pense que ça prendrait plus de temps, plus trop de temps. Ouais, je pense que je vais arrêter là parce que ça. Alors bon, tout ça pour vous dire que finalement, j'en reviens à ce que je disais au tout début. Les approches théoriques, selon moi, s'ajustent, se modifient avec les objets d'analyse qu'on décide d'examiner. Mais toujours, comme je vous ai dit, avec mon approche, toujours il y a l'économie politique comme base. Et féministe possible, moi, je peux vous dire qu'avec les Images at War sur les périodiques illustrés, je n'avais pas grand espace pour mettre du féminisme là-dedans parce que c'était tout masculin. Voilà, merci.
Merci. Merci, Michel. Alors, nous allons passer à la période des questions. Je vais demander aux personnes de s'identifier, nom et puis leur affiliation, pour qu'on sache à qui on s'adresse. Oui?
Moi, je suis Jean-Marie Lafortune, je suis professeur au département de communication sociale et publique. Peut-être un commentaire, question. Enfin, si je me suis attendu, c'est peut-être dû à la concision de la présentation, à ce qu'il y ait davantage de liens tissés avec les cultural studies, qui me semble aurait permis de conjuguer l'hégémonie, les études féministes, les théories de la réception, les usages sociaux des technologies. Enfin, j'aurais aimé peut-être vous entendre là-dessus. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas imprégné de ces approches? Et par ailleurs, je faisais un peu lien avec l'idée de Raymond Williams, justement, qui dit les moyens de communication sont des moyens de production, et avant tout, des moyens de production des rapports sociaux. Et donc, je me dis, effectivement, est-ce que la plus-value dans ce cadre-là, ce ne serait pas déplacer du champ économique vers le champ un peu du consentement, c'est-à-dire, au fond, d'une autodiscipline, et que ce sont les bénéfices, éventuellement, de ce qu'obtient les grandes compagnies, les grands financiers de ce monde en exploitant leurs moyens de communication dans une économie de services comme la nôtre. Mm. Alors, un peu voir dans quelle mesure, effectivement, est-ce que ce filon-là de cultural studies ne permettrait pas peut-être de rejoindre cette reconsidération-là sur les approches à plus-value et voir un déplacement qui serait plutôt du niveau de la culture, justement, comme bénéfice et non plus strictement.
Bon, merci de votre question parce que c'est évidemment très pertinent. J'utilise pas le gros mot cultural studies parce que j'ai constaté que les cultural studies ça avait des définitions vraiment vraiment différentes selon les gens, selon les groupes, selon ainsi de suite. Mais, par contre, oui, c'est vrai, j'ai pas parlé de Williams, j'ai pas parlé de Hall, mais je les utilise énormément. Williams, j'ai parlé de Gramsci, mais c'est en fait Williams que j'ai utilisé parce que Williams a vraiment développé ce concept hégémonique de Gramsci de façon beaucoup plus pratique et beaucoup plus intéressante que Gramsci l'avait fait. Donc, oui, je me sers évidemment des études culturelles pour complémenter encore là Marx. Moi, j'appelle plus ça des études marxistes parce que pour moi, le marxisme, et je me prends plus pour une marxiste non plus, parce que pour moi, le marxisme, c'est vraiment d'affirmer que l'économie détermine tout. Pour moi, c'est ça le marxisme. Alors, à partir du moment où on met la culture, où on met l'idéologie, où on met même le politique, parce que Marx, pour Marx, le politique, ça suit l'économique, à ce moment-là, c'est plus du marxisme, ça devient, comme vous venez de le mentionner, un peu des études culturelles. Bon. Donc, oui, je l'utilise. Maintenant, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question, parce que je pense que la plus-value deviendrait culturelle. Je pense que oui, d'une certaine façon. Mais comment vous voyez ça?
En termes de consentement, parce que vous avez soulevé cette idée-là, uh-huh. Ça recoupe aussi l'idée d'autodiscipline, parce qu'on sait que,
ouais.
Par exemple,
ouais.
Des journaux d'entreprise qui travaillent, c'est la fidélisation de leurs employés, etc. Et donc, ce consentement-là fait en sorte que, par exemple, on va entériner, consommer Made in China, et donc l'exploitation a lieu ailleurs, peut-être la plus-value économique a lieu ailleurs, mais ici, les bénéfices des moyens de communication, c'est une adhésion, disons, de la population, des consommateurs, à ces stratégies d'exploitation, de subordination, de pression, etc., qui n'ont pas toujours lieu ici, mais qu'on finit par avaliser par nos pratiques de consommation.
Mm-hmm. Parce que la plus-value, il faut absolument que ça soit lié, du point de vue marxiste en tout cas, il faut absolument que ça soit lié à la marchandise. Hein? Donc, vous me parlez de marchandise culturelle, c'est ça? Et puis, quand je parle de subordination des opératrices et d'autodiscipline, c'est sûr que c'est lié, je n'ai pas fait le lien moi-même ici aujourd'hui, mais c'est sûr qu'à cause de ça, le nombre d'appels est augmenté. Hein? C'est ça qui fait augmenter le nombre d'appels, qui donne l'idée à Bell d'augmenter le nombre d'appels. Alors, évidemment, ça serait lié, en tout cas indirectement, à mon histoire de plus-value. Donc, je suis contente que vous ayez mis ça sur la table. C'est lié à mon histoire de plus-value des opératrices. Ça, c'est sûr. Mais je ne crois pas que ce soit parce que c'est culturel. Parce que, à moins que vous me parliez de marchandises culturelles, là c'est différent. Marchandises culturelles qui a été produite par des travailleurs qui ne sont pas assez payés. Vous connaissez les concepts de plus-value, donc je n'ai pas besoin d'aller en détail là-dessus. Donc à ce moment-là, oui, c'est vrai. Il faut absolument considérer cette marchandise culturelle-là comme ayant de la plus-value quand elle est vendue. Même si c'est pas un produit culturel. Comment dirais-je?
Un lien d'information.
Oui, justement, ça peut être un lien d'information, ça peut être, même si c'est pas quelque chose qu'on peut voir qui est concret, bon, c'est quelque chose qui est de manipulable, même si c'est pas ça. Mais c'est de la marchandise. C'est quand même de la marchandise. C'est produit par. Alors, à ce moment-là, je suis d'accord. Mais juste le culturel comme ça, dans les airs, je dis, je suis pas d'accord là-dessus.
Enfin, simplement
sans... Non, mais je suis contente d'avoir...
Mais simplement, je croyais que vous étiez éloigné de cette conception de la plus-value marxiste pour l'appliquer à un autre champ, et là, c'était le champ justement du consentement. C'est là que je me suis dit qu'il y a peut-être d'autres retombées à cette plus-value, enfin, à la recherche de plus-value par les capitalistes, qui seraient d'un autre ordre que strictement économique dans les sociétés développées, où on se voit moins les processus de fabrication, de production de la marchandise comme telle, et où on est dans une logique plus d'abonnement et donc de consommation, au fond, on entérine, ce faisant, l'exploitation qui a lieu ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, à travers l'internationalisation, on n'est pas nécessairement ici même toujours dans des logiques de plus-value puisées au travail que font les ouvriers et les ouvrières d'ici, mais à travers la consommation qu'on fait, on appuie ces logiques-là déplacées, déterritorialisées.
Encore, je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que on est... Comment est-ce que je pourrais m'expliquer? Les abonnements. Hein? S'il y a plus d'abonnements, il y a plus de production. Hein? Parce que pour rencontrer, c'est comme le live dont je vous parlais, pour rencontrer les abonnements, il faut bien qu'il y ait de la production. Donc, pour moi, la plus-value, elle est toujours économique. Toujours, toujours. Elle fait des détours, des fois, comme vous l'avez dit, c'est parfait. Mais nécessairement, il faut qu'elle soit économique. Sinon, c'est plus de la plus-value. On peut l'appeler d'autres choses, évidemment. Mais de la valeur ajoutée, par exemple. Hein? Les libéraux appellent ça de la valeur ajoutée. Parfait. Mais c'est plus de la plus-value, en tout cas selon le concept marxiste. Mais pour le reste, je suis d'accord.
OK. J'ai une question ici. Ensuite, mademoiselle Tabar. Oui,
j'aimerais... Chantal Franqueur de l'École des médias.
Mm-hmm.
J'aimerais vous entendre sur... développer cette idée quand vous parliez de l'école des téléphonistes et vous avez dit j'ai eu besoin de Foucault pour aller vers l'autodiscipline, puis vous avez comme délaissé donc l'aspect marxiste où le sujet intègre vit sa subordination. Pourquoi c'était pas applicable? Pourquoi vous avez dû vous tourner vers Foucault?
Oh, j'ai pas abandonné. Si j'ai donné l'impression d'avoir abandonné.
Non, mais vous dites que ça c'était pas.
J'ai complémenté. Ouais. Okay. J'ai complémenté. J'ai pas abandonné. Non, parce que justement, comme vient de de mentionner mon collègue ici, c'est tout relié à la plus-value, finalement. Et c'est mais je pense pas, en tout cas, si vous trouvez un moyen de le faire, je serais très contente que vous me l'expliquiez, mais je ne voyais pas comment je pouvais rentrer dans les subtilités de ces activités ou ces pratiques dans le processus de production seulement en parlant de lutte de classe. Parce qu'avec les luttes de classe, il y a la subordination, puis il y a la domination. Et puis, bon, même si j'ajoute l'hégémonie, je ne vois pas dans les détails quand même. Je peux dire, oui, il y avait de la résistance. Oui, il y avait de l'opposition. Mais de quelle façon, ce n'est pas évident. Donc, ça me prenait un concept qui pouvait me lier à quelque chose de plus subtil. En fait, l'autodiscipline, c'est aussi relié au psychologique. Hein. Donc, un concept qui essayait de me permettre de voir un peu plus loin que juste l'économique.
Okay.
Il y a de l'économique là-dedans, mais il y a un peu plus que ça. C'est le concept de subjectification un peu plus que d'économique dedans. Là-bas?
Oui. Merci. On a une question là-bas.
Quand vous vous intéressez...
Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, pour le bénéfice de...
Je m'appelle Amina Hassan, je suis doctorante en communication à l'UQAM. Quand vous vous intéressez aux questions de domination et d'hégémonie, je pense que dans le prolongement de l'hégémonie dont parle Gramsci, dans les pays d'Amérique du Sud et dans les pays du tiers-monde où je viens, on parle justement du concept de l'hégémonie aussi de la dépendance.
La dépendance?
Oui. Mm-hmm.
Ah oui, je l'utilise dans mes cours d'ailleurs.
Mm-hmm. C'est juste un commentaire. Deuxième chose, je relève d'important aussi dans votre intervention le fait que vous parlez de l'association images et textes pour s'opposer à l'histoire officielle ou bien pour constituer un événement différemment. Et là, je pense à Jacques Rancière qui a parlé de l'image de la narration du témoin. Je pense notamment au. L'histoire israélite et juive ou de reconstitution de la Shoah, comment en absence d'image de la Shoah, on prend des témoins des survivants à la Shoah qui, à travers leur regard et leur récit sur ce qu'ils ont vécu, les larmes qui coulent, par exemple, d'un coiffeur qui rasait les cheveux des femmes avant qu'ils passaient dans les bouches. Du gaz, etc. Je pense que là, il y a aussi, en l'absence d'un texte écrit, en l'absence d'une image qui configure ces horreurs-là, juste le témoignage du récit de quelqu'un qui a vécu un événement peut reconstituer un événement et peut reconstituer une archive de l'histoire.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, je connais Rancière. Mais pour moi, l'expression de ces gens-là qui témoignent, c'est une image. Finalement, c'est une image vivante, mais c'est aussi une image. Et on ne peut pas dissocier leur témoignage de l'expression qu'ils ont justement dans le visage. Donc, quand je parle d'image, évidemment, je n'ai parlé ici que d'image dans les médias. Mais vous avez tout à fait raison que...
Il y a toujours une façon de reconstituer l'histoire par le témoignage.
Exactement.
En l'absence de l'événement qui a été configuré ou qui est filmé.
Mm-hmm. Vous avez tout à fait raison là-dessus, évidemment. Ça aussi, ça nous amène en fait aussi à la tour et son concept d'inscription. qui justement nous dit que qui nous suggère justement que les témoignages des gens comme ça ils sont mis sur papier, soit en image, soit en texte. Et que c'est comme ça qu'ils deviennent c'est ça.
Merci exactement. Beaucoup.
Alors, François, vous m'aviez dit que c'était juste un commentaire. C'est pour ça que j'ai pas répondu, mais si c'est une question, je peux répondre. Posez votre question, je vais répondre.
Sur la dépendance en prolongement de l'hégémonie.
Ben, la dépendance, je vais vous dire, ça existait avant Martine Barbeau, parce que probablement que nos Canadiens savent qu'il y avait Connie Smythe qui a écrit un livre qui s'appelle Dependency Road, puis qui montrait comment le Canada était dépendant culturellement des États-Unis. Alors, ça commence avec ça, et qui faisait une analyse très marxiste, d'ailleurs, de ça. Oui, j'utilise, comme je vous ai dit, j'utilise Martin Bambero dans mes cours. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, et je pense que c'est vrai, que c'est un moyen. Je dirais que c'est un moyen d'influencer. J'en reviens à mes concepts du début. Non, je suis pas sûre que ce soit de la résistance, et je suis pas sûre jusqu'à quel point ça peut être un pouvoir, mais c'est certainement une influence. C'est un moyen d'influencer ce qui pourrait être une domination culturelle à partir des États-Unis, par exemple. Ça, c'est sûr. Ce que j'aime moins dans Martin Barbero, pourtant j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais ce que j'aime moins, c'est que il donne beaucoup, beaucoup trop d'importance, d'après moi, justement, à l'intervention des utilisateurs ou l'intervention des populations dans la production des médias de masse. Alors, je trouve qu'il faut faire attention quand on l'utilise, de ne pas tomber non plus dans l'excès inverse. Mais c'est sûr que je suis entièrement d'accord que c'est un moyen de certainement d'opposition aussi, et peut-être même de résistance, mais qui est limité, d'après moi.
Merci.
Est-ce que j'ai répondu cette fois-là?
Déjà.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Louis Lompré, membre périphérique. Merci beaucoup, Mme Martin. J'ai trouvé votre exposé très nourrissant, si je peux le dire ainsi.
Merci.
Et très stimulant. La preuve, c'est que j'ai deux commentaires questions pour vous.
Parfait.
La première, ça concerne la plus-value. Comment avez-vous surmonté en quelque sorte? Parce que la façon dont vous l'avez exposé, moi, j'ai vu ça comme étant un défi méthodologique presque insurmontable, imprécis, sujet à l'évolution socio-historique, technologique, économique, et évidemment dépendant de l'évolution du marché du travail qui va en ralentissant, en accélérant, alors, à partir de quelles données vous avez tenté vos évaluations?
Pour les opératrices, vous voulez dire?
Oui. Mm-hmm. Et quelle période historique avez-vous couvert? Et ma deuxième, c'est ça, c'est que vous avez parlé, par exemple, là, de la plus-value qui équivalait en quelque sorte là, qui pouvait se calculer, par exemple, vous avez émis l'hypothèse du calcul du nombre de connexions par minute qu'on pouvait donc considérer comme étant des marchandises. Comment est-ce qu'on en est? Comment avez-vous tenté d'établir leur valeur d'usage, d'échange, mm-hmm. à partir de quel modèle?
OK.
Deuxième réaction, question. Vous avez évoqué certaines pratiques de résistance.
Mm-hmm.
Dans quelle mesure ces pratiques de résistance peuvent-elles être reliées à une phase historique qui aurait pu aboutir à une forme de syndicalisation?
Ah, d'accord.
Voilà, c'est tout.
Merci.
Pour ce qui est de la première question, pour la plus-value, ben je vous l'ai dit dans ma présentation que je n'étais pas sûre si j'étais encore d'accord, puis je vous ai aussi dit que c'était un peu tiré par les cheveux. Donc là, faut reconnaître que c'était pas une affirmation. Bon, mais quand même, je suis quand même capable de l'expliquer un tout petit peu, parce que plus il y avait de connexions qui pouvaient se faire par minute, plus le téléphone devenait intéressant pour les gens. Parce que plus les connexions, plus ils réussissaient à avoir une connexion, ce qui n'était pas le cas au début. Alors, plus le téléphone devenait intéressant pour les gens, plus évidemment il y avait d'abonnements, plus la compagnie faisait de... C'est la seule façon que je peux vous l'expliquer. Donc, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord. Comme je vous dis, je ne suis pas sûre si je le réécrirais dans mon chose. Mais en tout cas, à ce moment-là, je voulais tellement utiliser le concept de plus-value que finalement, j'ai réussi à trouver un moyen tordu, si vous voulez, de l'expliquer. C'est la période, vous m'avez demandé la période historique, et bien c'était entre 1976 et 1920. Et puis, la vraie augmentation du nombre de connexions s'est faite vers 1890 ou quelque chose comme ça, puis ça a augmenté, là. Énormément. La première, je crois que la première école était développée au début 90, mais là, ne me citez pas là-dessus, parce qu'il faudrait que je relise mes notes là-dessus. La deuxième, ben, les opérateurs, les opératrices, ils avaient essayé particulièrement à Toronto, je crois que c'était dans les années 80, ils ont fait la grève, ils ont essayé de se syndicaliser. Naturellement, il n'y avait aucun syndiqué, c'est-à-dire. il n'y avait aucun syndicat féminin. Donc, ils ont été obligés de s'associer à un syndicat masculin. Et ils étaient des pinottes à l'intérieur de ce syndicat-là. Donc, ils n'ont pas gagné grand-chose. Et puis, finalement, il y a eu aussi une grève à Montréal à un moment donné, mais beaucoup plus loin, plus tard, je veux dire. Et finalement, ça n'a jamais été, en tout cas jusqu'à 1920, j'ai absolument pas analysé ce qui se passait après 1920, mais ça n'a jamais été un syndicat qui pouvait leur apporter beaucoup. Et la compagnie, pour essayer de contrer le syndicat, ben, leur donnait des petits bonbons pour essayer de les amadouer, voilà. Donc, il n'y a jamais eu, non. Donc, pas dans la période que j'ai regardée. Okay. Non. Okay. Non.
Parfait. J'ai encore trois interventions. Evan, Gaëtan, Eric. Evan avant Gaëtan. Evan, à toi.
Un petit commentaire sur Martin Baller, qui est bien. Plus à lui que deux livres qui sont disponibles en anglais et français. Et je pense qu'il apporte beaucoup plus qui est montré dans ces livres. Et surtout, il y a trois ans, je pense qu'il a mis à jour son classique Média de Mars et
Média de Mars. Ah oui.
En espagnol.
Il vient de mourir, je pense. Hein.
Ah oui.
Oui, oui, oui.
Il y a quelques temps, une
nouvelle version de ce livre. Non, j'ai pas lu, mais je suis contente que vous me le disiez. Je vais essayer de regarder. Ça doit être en anglais. Moi, il faut que ce soit en anglais, parce que mes étudiants, ils ne lisent pas le français.
Mais mon question, c'est pendant votre discussion de cette communication, je le disais à l'époque, je suppose, les années 70-80, comme la première grande époque des développement des réseaux de communication, les réseaux ont fait c'est cher. Ça coûtait beaucoup d'argent pour construire des réseaux. Mais alors, j'ai compris comme illusion de le fait qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose.
La fibre optique, je pense que ça coûte pas mal.
Mais pour moi, c'est une autre compréhension de coût et peut-être une... Ah. Un problème pour les jeunes politiques adaptés à un nouveau contexte. Et le fait qu'aujourd'hui, les compagnies de télécommunication ne sont pas juste des compagnies qui dépensent de l'argent, sont vraiment, il existe un système financier plus que juste du marché de télécommunication. Et c'est une autre compréhension de coût, de passer sur, pas le coût d'un bien, mais le coût de valorisation de biens est construite dans une autre manière, basée sur le bon plus que le truc lui-même.
Vous avez probablement raison jusqu'à un certain point, mais d'un autre côté, moi, je ne vois pas comment on pourrait éviter non plus pour ça la base économique et politique, parce que, bon, je parlais de la fibre optique, il y a aussi le fait que c'est loin dans le monde peut-être tout le monde dans les pays en développement, par exemple, qui peuvent se permettre des communications en ordinateur. Je trouve qu'il faut encore, c'est encore un aspect extrêmement important des développements modernes actuels. Mais c'est vrai aussi, ce que vous dites, qu'il y a d'autres aspects qu'il faudrait prendre en considération. Mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne suis pas du tout dans ce genre d'analyse. Donc, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus.
Voilà. Gaëtan?
Oui, Michel,
tu pourrais te présenter pour le bénéfice
de Gaëtan.
Enchanté.
T'as expliqué pourquoi et comment ton objet t'a ramené du côté de Foucault à partir d'une démarche marxiste. T'as parlé du concept de subjectivation et t'as affirmé que, bon, pour toi, Foucault n'était pas incompatible avec l'approche marxiste. Mais t'as utilisé un certain Foucault, celui de la
Ça, c'est sûr.
Qui est revenu par la suite. C'est pas le concept le plus marxiste chez Foucault. En tout cas, le plus compatible, il me semble, avec le marxisme, mais l'autodiscipline te permet de rendre compte de ce qui se passe avec tes opératrices et tes utilisatrices.
C'est ça.
L'autodiscipline. Sauf que, pourquoi l'autodiscipline? Pourquoi faut-il l'autodiscipline dans le système? Parce qu'en posant la question, on peut intervenir encore plus du côté de la psychologie. Tu as mentionné que la subjectivation, ça nous entraînait du côté du sujet, du côté d'une certaine psychologie. Mm-hmm. Mais si on reste à l'intérieur de Foucault et qu'on se pose la question, pourquoi l'autodiscipline? Pourquoi l'autodiscipline est-elle nécessaire, en quelque part, au système pour qu'il fonctionne? Il me semble que chez Foucault, il y a une réponse à ça, qui l'éloigne du sujet, mais qui l'amène du côté d'une théorie du pouvoir. Mm-hmm. Et le pouvoir diffus, le pouvoir pas comme un attribut d'une personne, d'une position hiérarchique dans le système, mm-hmm. mais comme le pouvoir étant une donnée qui traverse.
Rhizomique.
Est-ce que l'autodiscipline t'a amené de ce côté-là?
Du côté du pouvoir, selon Foucault, tu veux dire.
Parce que pourquoi les opératrices pratiquent l'autodiscipline? Elles ne sont pas les seules. Moi, j'ai
elles ne s'en rendent pas compte, c'est inconscient, ça.
Qui avaient la même attitude, mais dans un autre contexte que le téléphonie, et qui intégraient beaucoup les valeurs de l'entreprise à laquelle ils appartenaient. Ça devenait leur entreprise.
Mm-hmm. Ah oui, c'est ça.
Gérée de New York.
Ah oui, mais c'est ça justement, tu tombes en plein dans le concept de subjectification, parce que ce que j'ai pas mentionné, que j'aurais dû, franchement, c'est que l'autodiscipline, elle est complètement inconsciente, elle est pas consciente. Les employés disent pas, je vais m'autodiscipliner, et viennent, comme tu viens de l'expliquer parfaitement, à force de travailler pendant, ils viennent qu'à le faire de façon inconsciente. Et si tu leur disais, hey, vous êtes en train, là, ils diraient, ben non, c'est juste que j'aime le travail bien fait. Tu vois, quelque chose comme ça, dans ce genre-là. Donc, ça fait partie vraiment de ce concept-là. Et pour faire partie de ce concept-là, il faut que ce soit inconscient. Puis Foucault, tu parles du modèle de pouvoir, qui est un modèle que comment il s'appelle? Oh là là, je viens d'oublier. A appelé le modèle rhizomique, tu sais, comme les champignons qui poussent comme ça, c'est ça qu'on voit pas, que c'est bon. Mais ça aussi, si tu regardes, par exemple, si on analyse dans les instituts psychiatriques où les malades sont bons, c'est ce qui se passe autour qui font que les malades deviennent s'autodisciplinent, quoi. Ils s'autodisciplinent, les malades. Et quand ils s'autodisciplinent pas, ben là, ça va mal, donc il s'en occupe de façon différente. Donc, et c'est là encore là, c'est inconscient. Les malades, ils vont pas dire je me m'autodiscipline, mais ils vont. On est tous comme ça. Là, on est assis ici, on s'autodiscipline. On s'en rend même pas compte, mais on est là, on va pas se mettre sur la table, on va pas danser, on s'autodiscipline. On n'est pas subject. On fait pas partie de ce concept-là pour autant, parce que c'est très ponctuel, si tu veux. Donc, c'est
du côté du concept du pouvoir.
Oui, du concept. C'est absolument essentiel pour.
C'est une pratique du pouvoir.
Oui, oui. Ah, c'est une pratique totale du pouvoir.
Et les acteurs pratiquent ça parce qu'ils contrôlent.
Exactement.
Une partie de
la situation en intégrant les valeurs
voilà.
de l'individualisme. Ils ont pris sur leur propre travail, leur propre production, sur le monde.
Exactement. Mais c'est pour ça aussi que c'est si complémentaire avec le marxisme. Tu vois? C'est, tu l'expliques parfaitement mieux que moi.
Tu veux dire qu'il se donne du pouvoir en soi.
C'est ça. Ils s'en rendent pas compte, mais ici, imagine-toi que les opératrices qui ont ouvert des écoles, penses-tu que ça leur donnait pas du pouvoir, toi, d'ouvrir des écoles comme ça? C'est incroyable. Donc, oui, c'est ça, c'est fascinant ce concept de subjectification là, de Foucault. Et c'est une chose que tu ne peux pas voir avec la lutte des classes, hein? Tu ne peux pas voir avec la plus-value, tu ne peux pas voir... Donc.
La conscience des classes non plus?
Même, non, parce que c'est pas exact, c'est une conscience de groupe. Ça, c'est individuel. L'autre, c'est une conscience de groupe. Donc, c'est différent. On peut en parler si vous voulez, mais c'est pas... On peut vous parler, si vous voulez, de E.P. Thompson et de la conscience de classe, mais c'est pas du tout la même chose. Non. Foucault, il s'en fout de la conscience de classe. C'est pas ça qui l'intéressait. Mais c'est... Il n'en parle pas partout, mais avez-vous lu l'article de Calon sur les... Comment ça s'appelle? J'ai juste le mot en anglais. Attendez, je vais le trouver. Sur les pétoncles. Ah, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Les pétanques de Saint-Brieuc. Est-ce que tu connais?
Je crois que c'était un des premiers textes que j'ai lu au doctorat.
Ah, mais il est superbe, ce texte. Il est superbe, ce texte-là, parce que c'est une étude scientifique qui... Bon, corrige-moi si je me trompe. Une étude scientifique dans laquelle des biologistes essaient de faire l'élevage des pétongles à Saint-Brieuc, parce qu'ils commencent à disparaître, les pétongles, puis là, ils ne voudraient pas que ça disparaisse à cause de la surpêche, etc. Bon, blablabla. Et ils essayent d'auto-discipliner les pétongles. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que les pétongles, ils ne se disciplinent pas, ils s'enlèvent. Hein. C'est tout relié à ça. Il ne dit pas, mais c'est relié à ça. Pourtant, Calon, c'était pas un Foucauldien. C'est toujours là, tu vois, de façon implicite, mais tu l'as très bien expliqué, c'est une question de pouvoir et les autorités, que ce soit en industrie, en institution, ils ont besoin de ça, justement, pour garder, ou politique, pour garder le calme. Sinon, il va y avoir une révolution, il va y avoir une grève. C'est quand ils perdent le contrôle là-dessus qu'ils se mettent à avoir des grèves, qu'ils se mettent à avoir des révolutions, et ainsi de suite.
Okay, si vous voulez...
Exactement.
Ça pourrait faire des patrons, ça pourrait faire des
oubliés. Ah ben évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de consentement, c'est ça. Oui, c'est ça.
Si vous le voulez bien, s'il vous plaît, on va passer aux trois dernières questions. Il nous reste une dizaine de
minutes. Trois dernières questions.
Trois dernières. On va demander aux personnes d'être brèves. Éric,
Fabien,
Normand. Éric, à toi.
Alors, je vais essayer d'être très très court. Je pense que tout ce dont on parle, ce serait très très bien d'y repenser dans le cadre de nous en tant que professeurs d'université, parce que l'autodiscipline, ça existe.
Oui, sûrement.
Aussi largement ici.
Oh, pas juste ici.
Oui, mais ici et ailleurs. Ouais. Ma question, ce serait plutôt sur... en fait, quand on compare intuitivement les études en communication par rapport aux autres sciences sociales et humaines, on a l'impression qu'il y a une place considérable accordée à ce qui vient d'être fait, en fait, à la nouveauté. Une technologie médiatique en chasse une autre, et il y a tout un tas de discours qui se développent, peut-être plus que dans d'autres disciplines. Et j'aimerais bien t'entendre un peu plus sur l'apport des approches de type historique qui t'intéressent de façon centrale par rapport... Justement, dans quelle mesure ça apporte quelque chose de très intéressant sur les perspectives critiques en communication. Parce qu'en plus, il me semble, tu vas me dire aussi si tu as le même avis ou un autre avis, que justement, dans les études en communication, les approches de type historique sont assez peu présentes.
Je sais, oui, ça tu as entièrement raison. Et je pense qu'ils sont essentiels. Je pense vraiment que c'est essentiel parce que je vais dire une grosse banalité, l'histoire se répète, et c'est un fait. Ça ne se répète pas exactement de la même façon, Mais comme Marx disait d'ailleurs, les sociétés sont fondées sur ce qu'ils ont fait avant. Hein. Il disait, je ne me souviens plus de ses mots exacts, mais il disait qu'on pouvait créer une société, mais il fallait toujours que ce soit selon, entre les bases qui existaient déjà. Alors, tu ne peux pas créer une société à partir de zéro. C'est ce qui expliquait. Donc, à partir de ce moment-là, il faut comprendre ce qui est arrivé avant pour pouvoir comprendre ce qui s'en vient. Et justement, si on s'imagine que maintenant, avec les technologies nouvelles, Internet, Facebook, etc., etc., si on s'imagine qu'il n'y a plus aucun ancrage dans l'économie et encore plus, je crois, dans le politique, alors là, on se... J'ai juste un mot impoli à dire, on se fourvoie. Il faut toujours en revenir à l'économie politique. Et ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, même le socioculturel se répète jusqu'à un certain point. Même les réactions aux nouvelles technologies se répètent, je crois, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, dans ce sens qu'il y a toujours une certaine résistance, mais il y a aussi des engouements. Tu vois, même avec le téléphone, il y avait ça. Pas au niveau que ça l'est présentement avec Facebook et tout ça, parce qu'évidemment, c'était pas aussi rapide, c'était pas aussi étendu, c'était pas bon, c'était très localisé, mais il y avait quand même le même. Alors, si on a compris l'introduction de nouvelles sociologies et tout ce que ça contient comme réaction et comme élément économique, politique, culturel et social, si on a compris ça, historiquement, moi, je pense que ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passe maintenant, même avec des technologies qui sont complètement différentes. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je crois que mes étudiants de doctorat et même mes étudiants de maîtrise, j'exige toujours qu'ils aient un chapitre historique. Je leur demande toujours d'aller chercher un chapitre historique pour qu'ils sachent. On n'est pas obligé de faire ça, mais moi, je le fais, parce qu'évidemment, ils savent, ils connaissent mon approche, donc ils savent quand ils viennent travailler avec moi que je vais probablement arriver. Donc, je leur demande toujours de faire ça, et ça met en contexte, tu vois, ce qu'ils veulent regarder après.
Merci. Toi, Fabien.
Merci. Fabien Dubin, doctorant de communication médicale. C'était juste un commentaire sur lequel vous pouvez répondre. Si vous souhaitez, je trouvais ça intéressant d'amener l'autodiscipline pour revenir sur ce concept-là dans votre exposé, parce que je trouvais que ça faisait bien le lien avec une approche critique générale, au sens où je trouvais que c'était un peu le penchant actif versus passif de l'aliénation, au sens aussi Stéphane Havard disait, il pouvait dire que l'aliénation, il la définit comme la dépossession subjective du pouvoir d'agir. D'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif, c'est une soumission des impératifs. Donc, je trouvais ça intéressant parce que si d'un côté on voit passivement comme une dépossession de ce pouvoir d'agir-là, alors l'autodiscipline, d'un point de vue critique, c'est aussi le voir comme une prise de puissance, mais à l'intérieur d'un système dans lequel on est aligné. Donc, je trouvais ça intéressant de relier ces deux concepts-là. Ça l'ouvrait et ça me permettait de réactualiser en écrivant une théorie critique.
Mm-hmm. Non, c'est un commentaire intéressant. Je dirais que c'est l'appropriation de l'aliénation pour mieux aliéner après. C'est à peu près ça, ma définition de subjectification. Non, évidemment, oui, très stratégique.
Les armes les puissants avec les armes les plus faibles.
Mm-hmm. Voilà. Mais en même temps, comme disait Gaétan, ça donne du pouvoir. Et comme vous dites aussi, ça donne du pouvoir. C'est ça. En tout cas, à un certain groupe. Oui, c'est sûr.
Merci. Nous allons prendre, malheureusement, la dernière question ici. Le temps est imparti. Peut-être, s'il est bref, une dernière après toi. Vas-y, Norman.
Je serai très bref. Norman Landry, Téléministre. Juste curieux, là, je ne sais pas si vous avez remarqué chez les opératistes des entreprises de résistance, de subversion des machines ou encore la présence d'agents perturbateurs qui venaient justement contester toute la relation de, le pouvoir autour des disciplines qui était normalisé à l'intérieur de l'institution.
Oh, je pense que ça, c'est un autre problème complètement et entièrement, parce que c'est des gens qui sont bien souvent payés pour faire ça. Donc ça, je peux vraiment pas me prononcer là-dessus, parce que il faudrait que je l'ai analysé. Je pourrais vous donner mon opinion, mais ça vous intéresse pas évidemment. Donc non, je suis désolée, je peux pas répondre là-dessus.
Ok.
Mais c'est pas que c'est pas un sujet intéressant, c'est un sujet très intéressant, mais je peux vraiment pas m'avancer là-dessus.
La dernière intervention.
J'ai été bref, vous voyez, vous pouvez m'en poser la question.
Ça va être bref.
Faut vous présenter.
Oui, tout à fait. Moi, c'est Jean Mouzimana. Je fais un doctorat à l'Université de Montréal. Communication. Un doctorat en lien avec l'UQAM et Concordia. Alors, je suis présentement en Afrique. Et alors, par rapport justement à cette question d'autodiscipline, c'est un concept assez intéressant. Et j'aurais aimé vous entendre sur justement, historiquement, parce que vous avez développé l'histoire de justement, on va commencer à les prendre au sérieux. Parce que je me dis que l'autodiscipline, c'est vrai, ça peut permettre un système de mieux fonctionner, mais en même temps aussi, c'est de la résignation, il y a un côté psychologique, comme on l'a bien souligné. Parce que je le vois en Afrique, c'est le système qui continue, et on se dit en même temps, quand est-ce que ça va s'arrêter pour que on puisse casser les structures, parce que tout le temps on a tendance à rentrer dans les mêmes structures, et bien à un moment donné, c'est ça qu'on est en train de regarder à travers le monde dans les révolutions arabes aujourd'hui. Et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui peut favoriser un déclenchement justement de l'évolution, de changement de structure, parce qu'à un moment donné, on se dit toujours qu'il faut toujours respecter les structures, mais à un moment donné, les structures, c'est vrai, ça peut permettre le fonctionnement des systèmes, mais je me dis, alors qu'est-ce qui a permis, à Nautina par exemple, que le féminisme se soit pris au sérieux?
Ah, ça c'est une très grande question. Oh là là, vous m'arrivez avec ça à la dernière minute.
Là. Vous avez 30 secondes pour répondre.
Je vais vous répondre en 30 secondes, puisqu'il m'a dit qu'il y a 30 secondes. Après, on pourra en discuter si vous voulez. Mais je disais que l'autodiscipline, c'est inconscient. Alors, je pense que justement, pour renverser ça, c'est la conscientisation des travailleurs. Et en même temps, la syndicalisation. Ça fait 30 secondes?
C'est parfait. La réponse est
bonne. Je peux juste ajouter une chose, c'est à l'épreuve de l'expérience aussi, à l'épreuve des événements,
merci beaucoup.
Et je veux, en dernier, vraiment vous remercier pour vos commentaires et vos questions. Ça m'a fait réfléchir.
Merci beaucoup.
Merci, Michel.
On fait une pause de 5 minutes.
Alors, tu prends ma place.
Ben non,
je la donne avec grand plaisir. Non, je vais rester là. Oh, tu peux pas rester là.
Il faut arrêter ça ou pas?
Ah bon, ok.